Mes très chers auditeurs, toujours en direct du Salon des médecines douces, bien-être et thalasso à Porte de Versailles sur le stand G39. Voilà, j'ai le grand plaisir de retrouver un intervenant qui, je l'espère, deviendra régulier sur la radio, ne serait-ce que pour que je trouve l'excuse de le retrouver. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Bonjour Arnaud Rioux, merci d'être là.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors Arnaud, je tiens à le dire et à te féliciter parce que ton dernier ouvrage, un peu à l'image de tous les autres, mais celui-là, il me parle particulièrement, dans sa forme, évidemment dans le fond. Bon, c'est un carnet, tu as voulu créer un carnet pour accompagner les gens dans la découverte de la méditation. Donc ça s'appelle Calme, mon carnet de méditation aux éditions Solar. Alors explique-nous, tu nous as déjà parlé de méditation sur cette antenne, de jouer le rôle de sa propre vie. Tu nous as parlé de cet outil finalement qui nous ramenait à nous-mêmes. Pourquoi faire un carnet qui peut suivre finalement le quotidien des gens?
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la méditation, c'est un outil où j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « Mais moi, j'aimerais bien méditer, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas si c'est un truc pour moi, je ne suis pas tibétain, je ne suis pas bouddhiste. » Et je me suis rendu compte qu'on n'avait en fait pas toujours une bonne connaissance de la méditation. Et ce qu'on appelait méditation, des fois, c'était de la cogitation, c'était de la réflexion, c'était du calme, ce n'était pas vraiment la méditation. Et donc, j'ai voulu faire un livre sur la méditation qui soit simple, qui soit accessible, qui soit très grand public. Et est venue l'idée de ce carnet qui se présente comme un carnet de voyage. Et quand moi, je méditais, j'ai passé une douzaine d'années avec les maîtres tibétains. Et en fait, j'avais toujours avec moi mon zen, mon coussin, et un carnet sur lequel je prenais des notes, sur lequel je marquais étape par quoi passer. Et c'est en s'inspirant de ce carnet que j'ai créé Calme, qui reste donc un carnet à compléter, à colorier, à remplir et à lire.
Est-ce que c'est pas ton carnet de bord idéal? Est-ce que c'est pas le carnet que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé à pratiquer la méditation?
Si, surtout que ça a quelque chose de très ludique, parce que la méditation, pour moi, ça doit rester léger, ça doit rester joyeux et ludique. C'est un voyage, et un voyage sans image, je trouve ça un peu ennuyeux. Donc du coup, j'ai travaillé avec une illustratrice, Marie Bretin, qui a fait, voilà, il y a des mandalas à colorier, il y a des photos originales, il y a des images pour illustrer ce que ça peut être la méditation. Et puis, il y a un accompagnement pas à pas pour savoir comment se tenir dans la posture, qu'est-ce qu'on fait avec les pensées, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions, est-ce qu'il y a des heures pour méditer, est-ce qu'on doit méditer longtemps, des questions qui sont vraiment très simples, qu'on se pose tous quand on veut poser les fesses sur un coussin et par où on commence.
Alors ne serait-ce que l'histoire de la pensée, il y a beaucoup de gens qui me disent « j'arrive pas à méditer parce que je continue de penser ». Moi je tente de leur expliquer avec ma toute petite expérience de la méditation. Oui c'est normal, je pense que l'idée c'est simplement de ne pas s'accrocher à ce à quoi on pense et surtout peut-être de prendre conscience de ce qui traverse notre esprit à longueur de journée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens? C'est normal de continuer à penser?
Heureusement, tant qu'on respire, on pense 80 000 pensées par jour à peu près. Mais ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne raison pour ne pas méditer. Et ce qu'on se trouve comme prétexte, c'est soit j'ai trop de pensées, soit je m'ennuie, soit j'ai pas le temps, soit ça me fait mal aux genoux. Donc on trouve toujours des prétextes qui peuvent sembler des bons prétextes, mais pour lesquels il y a toujours un remède, une antidote. Et on peut, par exemple, s'il y a beaucoup de pensées, il n'y a pas de souci avec ça. On peut par contre mettre la concentration ailleurs. Et si on met la concentration sur l'abdomen, sur la respiration, sur des cycles de respiration particuliers, les pensées sont là toujours, mais elles ne viennent plus nous obnubiler, elles ne viennent plus nous gêner. Donc la pensée, ça va devenir un support pour méditer. Comme les émotions peuvent être un support pour méditer. Si j'ai plein de colère ou plein de peur et que je me dis non, je suis trop émotionné, je ne peux pas méditer, si au contraire, je vais méditer à partir de ce qui se passe dans l'instant. Et tout ce qui m'arrive dans l'instant, je peux l'utiliser pour méditer.
Donc par exemple, une musique que l'on pourrait entendre, sur laquelle on pourrait méditer, la vue d'un paysage. Est-ce qu'on peut méditer autant les yeux fermés que les yeux ouverts? Est-ce que la contemplation est une forme de méditation aussi?
Alors, à tout ça, il y a plusieurs réponses, bien sûr, mais la méditation, c'est l'art à la fois d'être complètement à l'intérieur de soi, mais d'être complètement incarné dans le monde. Donc c'est ce qui fait que pour le regard, on n'a pas les yeux complètement fermés, sinon on est juste dans notre monde, et on ne laisse pas les yeux grands ouverts, sinon on est absorbé par le monde autour de nous. Donc on a les yeux mi-clos, et dans cette posture, on est à la fois conscient de notre respiration, et en même temps, on voit ce qui se passe autour de nous. Et la méditation, j'insiste là, là-dessus, c'est pas l'opposé de l'action. On a, pour moi, la méditation, ça inspire l'action, ça lui donne du sens, ça lui donne du poids, ça lui donne une couleur et ça lui donne une cohésion. Et vivre sans méditer, c'est comme écouter de la musique en regardant juste les notes, mais sans goûter à la musique. Donc c'est vraiment la méditation, ça nous donne beaucoup plus de couleur au monde et beaucoup plus de compréhension et de cœur.
Alors j'aimerais qu'on parle évidemment de la conscience. Aujourd'hui, on est dans une ère où on parle de plus en plus de l'importance d'être conscient à travers des courants, ne serait-ce que l'alimentation en conscience, on en parle de plus en plus, c'est très important pour mettre le corps en phase, pour les gens qui ont notamment des problèmes de surpoids, mais qui prennent pas vraiment le temps de ressentir les choses. Qu'est-ce que ça change selon toi de prendre tous les matins ne serait-ce que 10 minutes pour méditer après dans une journée ?
Tout. Ça change tout, parce qu'à partir du moment où on met de la conscience sur notre quotidien, ça va doucement, mais c'est pour ça que souvent les gens ont peur de méditer, parce qu'ils sont conscients inconsciemment du changement qui les attend. Quand on médite, d'un seul coup, on prend conscience que notre alimentation agit sur nous. On prend conscience que l'alimentation psychique, c'est-à-dire toutes les conversations toxiques, passer du temps à écouter de la télé, s'abrutir quelque part, tout ça, on a la possibilité de le couper. Mais si on coupe tout ça, qu'est-ce qui reste ? On se retrouve tout seul dans une forme de désert et on se retrouve avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est nous-mêmes. Et comme la méditation, ça passe par rester en silence sans ne rien faire, on se retrouve seul avec nous. Et seul avec nous, la question qu'on a à se poser, c'est soit on s'évite toute sa vie, et on va courir ailleurs et on va compenser par plein de choses, par l'alcool, le sexe, la télé, les activités, le boulot, soit on prend le temps de se découvrir et de se rencontrer. Et quand vraiment on s'est rencontré, alors à ce moment-là, ça donne une couleur totalement différente à notre posture, à nos décisions, à notre posture professionnelle, à notre relation de couple, à nos relations parents-enfants. Ça change complètement parce qu'on prend conscience qu'on est le premier responsable de notre vie.
J'adore cette idée de se rencontrer. Il y a une auditrice qui passait tout à l'heure, elle me disait, Nathalie, vous répétez tout le temps dans vos émissions, l'important c'est de s'aimer, et comme je raconte souvent avec humour que je me suis demandé en mariage et que depuis avec moi-même, c'est pas tous les jours facile, mais on essaye d'éviter la routine, de se surprendre, mais en tout cas tous les jours de s'honorer et d'essayer de s'offrir le meilleur. On s'aime pas tous les jours, il y a des jours où même on peut pas se supporter, mais ça fait partie de la vie, et je crois que des outils, et je le répète aussi régulièrement sur l'antenne, mais la méditation, le yoga, moi, c'est des approches qui ont changé ma vie, évidemment, parce qu'elles y ont mis de la conscience. Et qu'aujourd'hui, je ne suis plus pareille depuis que, comme tu dis, je me suis rencontrée et que je suis en phase d'accueil avec moi-même, en fait. Il y a une compréhension de moi, ou quelque part, même s'il y a des fois où je ne me comprends pas, mais un accueil, je crois que c'est le mot, un accueil de soi grâce à la méditation.
Ouais, c'est ce qui fait que tu es si rayonnante. Et la méditation, c'est vrai que ça nous permet de nous ouvrir. Et y a beaucoup, souvent, on se dit, ouais, on a besoin de commencer à s'aimer pour aimer les autres. Sur un plan, c'est vrai. Hier, j'étais avec dans une entreprise où il y avait 45% de personnel handicapé. Et j'ai beaucoup parlé avec la directrice qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché, qui me disait, en fait, on peut aussi... Les handicapés, par exemple, s'aiment assez peu, mais par contre ont un cœur en or et sont complètement tournés vers l'autre. Et j'ai rencontré effectivement des handicapés qui sont capables de se sacrifier complètement pour rendre un service, parce qu'ils vont aimer l'autre plus que soi-même. Et entre se dire on a besoin de s'aimer, je peux pas aimer les autres parce que je m'aime pas assez, ou alors je peux pas m'aimer moi-même parce que j'aime pas assez les autres, entre les deux, il y a une voie médiane. Et la méditation, quand on médite, on se rend compte que soi et les autres, c'est pas séparé. Sur un plan, c'est pas séparé. Bien sûr, t'es Nathalie, je suis Arnaud, t'as un costume comme ça, moi j'ai un costume différent. Mais en méditant, on laisse tomber les couches d'oignons. On se rend compte que nous ne sommes pas notre personnalité, que nous ne sommes pas notre corps physique uniquement, ça va plus loin que ça, que nous ne sommes plus que nos souvenirs, que nous sommes plus que nos habitudes. Et quand on descend, il y a une méditation qui s'appelle « Qui suis-je ?», on pose la question à l'autre à répétition, « Qui tu es vraiment ?» Et l'autre dit « Bah voilà, je suis Arnaud Rioux, je suis auteur. » « Oui, mais qui tu es vraiment ?» Ah, alors on enlève une couche d'oignon, on va un peu plus loin. « Ah, bah je suis un être qui pense que... » oui, mais qui tu es vraiment ? Et au fur et à mesure, on se rend compte que plus on descend, il n'y a qu'une chose qui reste au fond, c'est l'amour, c'est le cœur. Et dans l'amour, il n'y a pas la séparation de moi, de l'autre. Il n'y a pas la séparation. Il y a une forme d'amour inconditionnel qui fait que quand on est dans cet amour-là, le cœur est ouvert, pas pour une personne. Il est ouvert parce que c'est sa nature d'être ouverte. Et la méditation nous rappelle que la nature de notre cœur, c'est d'être ouvert. Et ce qui l'a fermé, c'est les expériences négatives. Et quand on a identifié ces expériences et qu'on les décristallise, alors on retrouve la puissance du cœur.
À chaque fois, je suis émue. À chaque fois que... Non, à chaque fois, je suis très émue de tes paroles, en fait. Je crois que justement, toi, tu parles avec cette dimension de cœur. C'est ça qui est si fort. C'est que tu touches tout de suite à un espace en nous où, voilà, c'est l'authenticité de ce que t'es. Qui es-tu, Arnaud Riou ? T'es en tout cas un homme très généreux dans ta transmission et dans la manière de le transmettre. Enfin, le fond est intéressant, mais la forme l'est tout autant, et surtout, ça passe directement, quoi. C'est de cœur à cœur, et je crois qu'à chaque fois, ça me fait cet effet. À chaque fois, on pourrait se mettre à pleurer en parlant de... En plus, c'est heureux, on parle de choses joyeuses, hein, mais du coup, de se retrouver avec soi, de se rencontrer, c'est des choses plutôt merveilleuses et joyeuses. Mais voilà, mais c'est beau, c'est touchant. En fait, l'humanité, aujourd'hui, a envie de se reconnecter aussi à cette énergie de cœur. Pour tous ces gens qui ont peur, là j'en ai croisé pas mal ces derniers jours, qui passent sur le stand et qui me disent « oui, moi j'ai peur d'aller vers les autres, donc du coup je fais des problèmes de peau ou parfois des problèmes de santé parce que ça me... » Voilà, c'est des excuses pour ne pas m'ouvrir aux gens et je suis un peu dominée par mes peurs. Est-ce que justement la méditation, pas à pas, nous permet de faire face à nos peurs, à nos angoisses ?
On a principalement deux moteurs. Le premier, c'est la peur. Hein, j'ai peur de l'autre parce que l'autre est un étranger, parce que l'autre est puissant, parce que l'autre est grand, parce que l'autre est différent de moi. Et l'autre moteur, c'est le désir. J'ai envie de monter ma boîte, m'installer avec cette personne, avoir des enfants. Et les deux moteurs, plus il y a de peur, moins il y a de désir. Et plus il y a de désir, moins il y a de peur. Et la méditation nous apprend à décristalliser les peurs pour se rendre compte que ce sont que des projections qui se sont durcies à un moment donné de notre expérience. Parce que, j'en sais rien, je me suis fait voler mon sac par un étranger et d'un seul coup, je vais avoir une pensée qui se cristallise dessus, les étrangers sont des voleurs. J'ai eu des relations difficiles avec une femme et je vais dire, les femmes sont dangereuses.
C'est vrai, les femmes sont dangereuses, Arnaud, hein, fais gaffe.
Paraît-il. Mais... plus on va cristalliser tout ça, plus on va fermer le cœur. Et plus on se rend compte que ces peurs-là, on peut les décristalliser, et il y a quelque chose qui s'ouvre, et plus il y a de désir, qui est du désir de vivre, qui est du désir de voyager, d'aller vers l'autre. Parce que qu'est-ce qu'on a comme plus belle chose à faire sur cette terre que d'apprendre à ouvrir notre cœur ? Et je crois qu'à la fin de notre vie, il y a une question qui se posera vraiment. Et ça, c'est un thème sur lequel je médite tous les matins, c'est « As-tu aimé ?» Est-ce que ton cœur s'est ouvert ? Pas « oui, j'ai aimé cette personne passionnément », non. Est-ce que ton cœur s'est ouvert pour être touché par un lever de soleil, par le rire d'un enfant, par une fleur qui s'ouvre, par... Est-ce que j'ai été touché par la musique de Bach, par... Simplement, est-ce que mon cœur s'est ouvert ? Et si on ne peut pas répondre positivement, on passe à côté de notre vie.
Alors, est-ce qu'il se peut quand même, à certains moments de notre vie, qu'on soit moins disponible aussi ? Moi, je me rends compte de plus en plus que c'est vrai. Il y a des moments où j'ai envie d'être très ouverte, mon cœur a envie d'être très ouvert, et puis il y a d'autres moments, il a juste envie de se refermer un petit peu, et j'ai juste envie un peu de me renfermer sur moi. Est-ce que tu trouves que ça, c'est un équilibre à avoir, d'alterner entre des moments de repli sur soi et des moments d'ouverture aux autres ? Est-ce qu'on peut aussi, à certains moments de notre vie, juste ouvrir notre cœur, mais juste à nous-mêmes, pour nous-mêmes ? Est-ce que c'est sain de le faire aussi ?
De toute façon, le cœur est un organe qui est vivant et on ne choisit pas toujours de se dire d'ouvrir son cœur. Je peux vouloir ouvrir mon cœur et si on marche sur le pied, le cœur va se fermer malgré moi. Et il y a des moments où on a besoin de s'isoler et de se dire « voilà, j'ai été blessé, j'ai besoin de rester dans mon cocon ». Mais si on met de la conscience, si on se pose en disant « voilà, mon cœur est fermé et je reconnais à mon cœur l'autorisation de se fermer », qu'est-ce qui se passe ? Il s'ouvre. Maintenant, si jamais je reste dans une pensée, c'est-à-dire mon cœur s'est fermé parce qu'elle m'a dit ça, j'aurais pas voulu qu'elle me dise ça, je voulais. Là, je reste à entretenir le plan mental. Mais si je rentre à l'intérieur de moi, je ne rends pas l'autre responsable de ce qui m'arrive, je prends la pleine responsabilité de ce qui m'arrive. Et je mets de la conscience sur tout ce qui m'arrive. Je redeviens maître de ma vie par la méditation. Et là, à ce moment-là, je me dis, oui, mon cœur s'est fermé, et quand je dis ça, tchac, il se détend. Hein, c'est comme, moi, pendant très longtemps, j'ai médité, et puis je me sentais tendu, parce que je me disais, c'est trop long. Et puis, je me disais, il faut être détendu, ça marche pas. Par contre, si je me dis, ok, je m'autorise à être tendu, il y a quelque chose qui se détend à travers nous. C'est pareil pour les pensées. Si je dis, arrêtez de penser, qu'est-ce qui se passe? On a des pensées. Pensez pas à un piano noir, ça y est, je pense à un piano noir. Donc ça marche pas comme ça. Si maintenant je me dis j'ai le droit d'avoir des pensées, je suis quand même autorisé à méditer, même avec des pensées. J'ai le droit d'avoir des émotions, mais je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ces émotions. Il y a une autre présence plus forte, plus large, qui dépasse l'espace des pensées, et c'est l'espace du cœur, c'est l'espace de l'être. Donc la méditation nous amène à découvrir cet espace de l'être et à l'expandre suffisamment pour se laisser toucher le plus de fois possible dans une journée. Et après, ça devient comme un réflexe naturel.
Et puis c'est comme tout, à force d'expérimenter, ça devient quelque chose d'assez naturel aussi. Le cerveau est malléable et prend des habitudes, prend l'habitude comme on peut prendre des mauvaises habitudes. Bah là, du coup, la méditation devient quelque chose de plus en plus aisé. On arrive de plus en plus à atteindre cet espace où, tout d'un coup, j'aurais du mal à le décrire, mais comme un espace de tout, de reliance au tout. Et ça, ça vient au fur et à mesure de notre expérience. Je parlais avec Thomas d'Ensembourg de « Être heureux n'est pas nécessairement confortable ». Et j'aime bien parce que dans son livre, il dit « Quand je suis en conférence, je demande aux gens qui sait ce qui est ». Donc, il y a 10 personnes qui lèvent la main. Qui est heureux, t'as plus personne. Et surtout dans l'idée d'apprendre le ski, il dit « Bah voilà, vous avez chuté au début. Vous avez raté, c'était compliqué. Vous aviez pas vraiment d'équilibre. Bah, le bonheur, c'est pareil, ça prend ». Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, la méditation, c'est pareil, c'est pas forcément simple dès le départ, mais en même temps, est-ce que la vie, elle est faite pour être simple? Je ne suis pas sûre, elle est là pour nous faire évoluer, et c'est ça qui compte finalement.
C'est une gymnastique de l'esprit et du cœur, et le cœur, ça se muscle, l'esprit, ça se muscle, comme le corps, ça se muscle, le ski, le basket, je vais avoir besoin de m'entraîner. Mais c'est Laurent Gounel qui prend cette image, j'aime beaucoup, on imagine un tas d'épices, et sur le tas d'épices, on laisse tomber une goutte d'eau, et puis une autre, et puis une autre, et la goutte d'eau va creuser des sillons. Et il y a un moment donné, dès que je laisse tomber une goutte d'eau, elle suit le même sillon. Au niveau de notre cerveau, c'est la même chose. On a des synapses, des connexions neuronales qui fait qu'on est habitué à utiliser les mêmes connexions. Hein ? Il m'a marché sur le pied, j'ose pas lui dire, donc je boude. Tac, tac, tac. Je prends exactement le même schéma. Il ne m'a pas parlé, ça me met en colère, donc je lui crie dessus. Tac, tac, tac. Ça prend le même schéma. Et si je veux changer le schéma, j'ai déjà besoin de prendre conscience du schéma en lui-même, de prendre ce recul et ensuite d'expérimenter quelque chose par des formules positives, par des choses très très simples. Et aujourd'hui, la science, la physique quantique nous montre que non seulement le cerveau a une plasticité à tout âge, mais on a une possibilité d'agir jusqu'à la fréquence vibratoire de notre ADN. Donc on a la possibilité de changer énormément de choses par la puissance de nos pensées et de contrôler nos pensées. De les contrôler pour les orienter, c'est ça aussi le but de la méditation. Le but de la méditation, c'est d'apprendre à être heureux. Sinon, on n'a que faire de méditer si ça ne nous rend pas plus heureux, plus joyeux, plus bien dans nos baskets et mieux avec les autres. Pourquoi méditer ? Et donc, ce qui nous aide à être heureux, c'est de développer à l'intérieur de soi des ressorts qui ne dépendent pas des phénomènes extérieurs. Et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir une grève de métro, il peut y avoir mon boulot qui ne se passe pas bien, il peut y avoir un excès de travail. Et il y a une femme qui est venue me voir à mon cabinet hier, elle est arrivée, elle était toute tendue, il n'y a rien qui marchait dans sa vie, son boulot ne marchait pas, son truc. Et on a commencé par méditer un quart d'heure juste sur le fait qu'elle était vivante et qu'elle respirait. Et au bout de 15 minutes, son regard a changé. Elle s'est rendue compte qu'elle avait choisi d'être manager dans une boîte et que donc, ça entraîne obligatoirement un investissement de temps et d'énergie et que tout ça, ça reposait sur des choix. Et à partir du moment où on prend conscience de nos choix, il y a quelque chose qui se détend et on devient plus apaisé et plus heureux.
Parce que sûrement, elle n'a pas choisi tout ça par hasard non plus. C'est que ça fait partie d'une quête ou de quelque chose qu'elle est en train de mettre en œuvre, peut-être pour comprendre et faire autre chose derrière. Mais tout ce qu'on fait a une raison d'être. Et ça, il y a beaucoup de gens qui entament leur parcours de vie en faisant des choses complètement différentes de ce qui les passionne vraiment, de ce pourquoi ils sont faits. Et parfois, ils arrivent, ils me disent « Bah oui, c'est à 50 ans que j'ai découvert ma vocation, enfin ma mission d'âme. » Certains parlent d'une mission d'âme. Ils me disent « J'ai perdu mon temps jusqu'alors. » Et je leur réponds souvent « Bah, je pense pas que vous ayez perdu votre temps. C'était sûrement nécessaire. » Finalement, toutes les étapes, selon toi, d'un parcours sont juste les petites pièces d'un puzzle qui va s'imbriquer au fur et à mesure.
Ouais, c'est... Moi, je n'ai pas appris grand-chose à l'école, par exemple, mais une chose que j'ai appris, c'est à taper à la machine. Et aujourd'hui, j'écris des livres et je suis très content d'avoir appris à faire ça à l'école. Et quand on fait, quand on regarde, quand on médite, on se rend compte que c'est vraiment comme les pièces d'un puzzle. Par moments, ça peut nous sembler incohérent. On se dit, mais pourquoi je suis passé par là ? Mais le puzzle, il est toujours cohérent. Il y a toujours quelque chose de magique. On est vraiment des créateurs. Et la base de ça, pour moi, c'est la joie et l'ouverture du cœur. Et c'est pas un événement extérieur qui crée la joie, c'est la joie qui attire à nous les événements extérieurs favorables. Rencontrer quelqu'un en amour, on rencontre pas quelqu'un et ça nous rend heureux. Non, on est heureux, on a le cœur ouvert et on attire quelqu'un à nous qui nous correspond. On cherche du travail, c'est pas le travail qui va nous rendre heureux, c'est parce que d'un seul coup on va dégager une belle énergie qu'on va attirer à nous un travail positif. Et on peut prendre tous les thèmes comme ça. Le bonheur, c'est pas une résultante, c'est un point de départ. Et ce point de départ, surtout dans cette période que je trouve difficile, parce qu'on ne vit pas une période facile. Extérieurement, on aurait plein de raisons de se noyer dans les mauvaises infos et de se dire « Ok, je jette l'éponge ». Ce n'est pas une période facile. C'est pour ça qu'on a besoin de courage et qu'on a besoin de notre courage de se dire « Ok, comment je peux contribuer à rendre le monde meilleur ?» Dernièrement, j'ai fait un stage, j'ai été hyper touché de ça. J'avais 10 chefs d'entreprise et je leur ai posé la question « Qu'est-ce que vous avez fait pour rendre le monde meilleur ?» Et chacun a médité quelques instants et chacun a témoigné, l'un qu'il avait fait 200 km pour aller aider une personne qui avait besoin, l'autre qu'il avait écouté quelqu'un qui était... Et chacun avait fait des choses extraordinaires pour rendre le monde meilleur. Et pour moi, on a tous cette aspiration à rendre le monde meilleur parce que rendre le monde meilleur, c'est se sentir utile, c'est accéder à son propre bonheur. Et il n'y a rien qui peut nous épanouir plus que ça. Et pour ça, on a besoin d'ouvrir le cœur et le calme, la méditation, c'est une voie d'accès. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Mais c'est une voie d'accès, et pour moi une voie d'accès 4 étoiles, 5 étoiles, parce qu'on a vraiment la possibilité en méditant de ressentir, de comprendre ce qui nous arrive, d'orienter notre vie, de comprendre les mécanismes de notre esprit, de comprendre comment fonctionnent les projections et vraiment de créer notre vie et d'ouvrir notre cœur. Parce que sinon, si ce n'était pas pour ouvrir le cœur, la méditation ne servirait à rien.
Et puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est un point de départ. Et finalement, quand on est bien et qu'on ne projette pas des attentes sur le monde extérieur, sur les autres, sur le travail, et ben finalement, les choses viennent à nous. Et il suffit d'être amoureux de soi-même quelque part pour que tout le monde ait envie de nous épouser. Hein. Ça, c'est véridique. Voilà, commencez à rentrer en amour avec vous-même. Utilisez tous les outils dont vous avez besoin. La méditation, en effet, est un outil formidable. Et comme tu dis, 5 étoiles, la méditation, c'est le top, c'est accessible. On peut en faire tout le temps, partout, ne serait-ce que dans le métro. Enfin bon, je parle en tant que parisienne, mais dans le trajet qu'on peut faire pour se rendre au travail le matin, voilà, de prendre un petit temps pour méditer, c'est important. Le matin et le soir, qu'est-ce que tu nous préconiserais pour terminer si on devait instaurer de la méditation dans notre quotidien, les moments qui sont un petit peu le moment idéal pour méditer?
En fait, il y a tout un tas de moments. Alors bien sûr, on commence par apprendre à méditer assis et là, il y a tout un suivi. Mais ensuite, tout est support à méditer. Quand je prends ma douche, par exemple, je peux prendre ma douche en pensant à la journée qui m'attend et je peux prendre ma douche en étant complètement conscient de l'eau qui est en train de nettoyer mon corps. Quand je prépare à manger, je peux penser à la réunion de l'après-midi où je peux être conscient que la terre me donne des aliments, que je vais partager ces aliments avec les gens que j'aime. Et c'est ça la conscience, c'est la présence et c'est ça qui va nous faire apprécier de plus en plus les petits moments du quotidien. Et qu'est-ce qui va nous aider à méditer, ne serait-ce que marcher ? Marcher en étant complètement présent dans ses pieds, présent dans ses chevilles, présent dans la voûte plantaire et densifier son corps. Quand on densifie son corps, on est en lien, on est plus présent et donc plus ouvert et le cœur s'ouvre naturellement quand on est vraiment présent.
Comment tu te sens toi en ce moment ?
Moi, en ce moment, j'ai une activité qui est très remplie parce que le livre marche bien. Je fais beaucoup d'activités, mais je me sens dans une joie incroyable. Et dans la période, tu vois, il y a eu cet événement au mois de novembre qui nous ont abattus, surtout nous, les Parisiens. Enfin, tout le monde, mais peut-être les Parisiens ont peut-être vu ça de près. Et j'ai sur le coup été effondré, abasourdi en me disant « Waouh, quelle période difficile on... !» Et j'ai eu un moment de découragement qui a duré 3 jours pendant lequel je ne pouvais plus aligner un mot, je ne pouvais plus écrire une ligne. Et plutôt que de dévier ça, je suis vraiment descendu au fond du fond du fond. Et au fond du fond, il y avait la lumière, il y avait cette chance d'être en vie. Et depuis ce mois de novembre, j'ai une énergie qui est décuplée et je rencontre autour de moi des gens qui se sentent encore plus vivants, encore plus en lien. Et donc, je suis dans un moment de ma vie qui est un des plus beaux moments de ma vie parce que je me sens vraiment pleinement vivant et en lien avec ma capacité à créer et à co-créer un monde auquel j'aspire.
Puis ce qui nous tient, c'est d'être dans l'action finalement. Comme on est déjà à l'œuvre, moi je crois que c'est ça. Je me suis rendu compte que tant que je rendais les gens heureux et que là, d'être sur des salons comme ça et de croiser le sourire, mais j'allais dire, je reçois un tel amour, un amour qui est surpuissant auquel je ne m'attends pas, qui parfois même pousse les gens à pleurer en me voyant. Et vraiment, ça me touche profondément. Je me dis, le seul truc, je ne peux pas ne pas être optimiste puisque je suis en mission, en œuvre et que tous les jours, je donne mon énergie et ce que je suis à faire que ce monde s'apaise, soit plus heureux, plus joyeux.
J'ai une méditation à offrir particulièrement pour les auditeurs de Radio Médecine Douce. Vous la commencez à partir de maintenant. La prochaine personne que vous rencontrez sur votre chemin, qui qu'elle soit, que ce soit quelqu'un de votre famille, votre garagiste, votre plombier, votre banquier, regardez-la dans les yeux et dites-vous, cette personne est probablement la plus belle personne sur la Terre. Et simplement, peut-être son visage ne m'est pas familier, peut-être elle a un ton grincheux, mais je vais derrière cette apparence pour aller toucher l'âme et je vois dans le regard de cette personne que cette personne est extraordinaire. Et voilà, vous qui m'écoutez, faites ça sur la prochaine personne que vous rencontrez, qui qu'elle soit, et de se dire, voilà, je trouve la beauté. Et si vous trouvez la beauté dans ce regard, vous la trouverez dans votre cœur.
Waouh, merci du cadeau. Voilà. Et la deuxième chose à faire après ça, c'est de se rendre dans chez tous les bons libraires, mais dans toutes les FNAC et autres endroits qui vendent, en tout cas, des bons livres. Calme, mon carnet de méditation, donc écrit par Arnaud Rioux, illustré par Marie Bretin, aux éditions Solar. Merci, cher Arnaud. J'espère déjà à très bientôt. Je me languis déjà de notre prochaine interview. Voilà, c'est un bonheur. Merci d'être venu partager tout ça avec nous.
Avec plaisir et bonne méditation.
À bientôt.